L'apartheid est-il une forme de démocratie ? Nombreux sont les citoyens qui, se référant à ce que disent les médias, imaginent que nous vivons dans une démocratie. Certes, nous élisons un président et une assemblée au suffrage universel en utilisant le scrutin uninominal à deux tours. On pourrait déjà faire pas mal de remarques sur ce scrutin qui incite une majorité d'électeurs à reporter leur voix sur le candidat le moins pire à leurs yeux, éliminant ainsi des sensibilités électorales représentatives d'une bonne partie de la population. Le scrutin uninominal à deux tours permet d'élire un président et une assemblée qui ont en charge de gouverner la France. Ainsi, tout le monde pense qu'on est en démocratie. Est-ce bien si sûr? Regardez autour de vous. Nous sommes dans un régime d'apartheid. Nous ne sommes pas discriminés et ignorés en fonction de notre couleur de peau, mais en fonction de nos revenus. Toute la politique est élaborée pour que les gens les plus aisés, les plus entreprenants, les nantis, fassent comme bon leur semble, sans avoir à prendre en compte les actifs pauvres, les chômeurs, les retraités et les miséreux, quelle que soit leur couleur de peau. Pire, ce sont ces derniers qui, se voyant taxer les 3 sous avec lesquels ils essayent de s'en sortir, financent les nantis. Interrogé par un journaliste qui lui demandait « On dit qu'Emmanuel Macron fait une politique pour les riches, qu'en pensez-vous » François Hollande a répondu « C'est faux, il mène une politique pour les très riches. » Imaginez qu'une substance quelconque rende les personnes dont les revenus sont supérieurs à 500 000 euros bleu fluo. La supercherie serait visible par tous. Le régime d'apartheid apparaîtrait aux yeux de tous. D'ailleurs, si vous observez attentivement, les nantis ont le teint hâlé. Pas bronzé, mais hâlé. C'est comme un voile islamique, mais au lieu d'être en tissu, il est incrusté à même le derme grâce aux rayons ultraviolets incubés chez l'esthéticienne. À la différence du bronzage, le hâlage est régulier et doux. D'où son succès auprès de nombreux députés et ministres. Même Nicolas Hulot était hâlé. Mais en tant que breton, il défendait le hâlage naturel et ce n'est plus possible, le soleil est trop brûlant. Si le hâlage était bleu fluo, on verrait, comme en Afrique du Sud dans les années 80, la minorité à qui profite la politique du président Macron. Sur le plan des idées, il est bon de rappeler que les nantis et les entreprenants ont tous admis que, du bureau à la tombe, en passant par l'éducation, la nourriture, l'habillement, les voyages, les loisirs, le rêve et même le sexe, les besoins de la population sont régis par des multinationales. Rappelons que ceux qui menaient une politique d'apartheid en Afrique du Sud avaient admis que des ghettos suffisamment achalandés pour les personnes de couleur issus d'ethnies différentes, suffisaient à leurs besoins et favorisaient leur réactivité. Que signifie cet attelage des besoins encadrés par des multinationales? Tout simplement que chaque citoyen, élevé en fonction de ses moyens pécuniaires, utilise ce qu'il a à disposition pour faire face à ses besoins et ressemble à celui qui est dans le même créneau que lui. L'idéal, en la matière, relevant de ce que représentaient au début du XXe siècle les corons dans le Nord. Célébré par le chanteur disparu Pierre Bachelet, les corons étaient des quartiers construits par les compagnies minières pour les mineurs, où les maisons identiques, mitoyennes, s'alignaient de chaque côté d'une rue. Aujourd'hui, pour faire face à nos besoins, il y a les supermarchés. Pour nécessiteux, sans emploi, RMistes, etc., ce sera genre Netto, Aldi. Pour la majorité des salariés, ce sera genre Leclerc, Auchan, etc. Pour la bourgeoisie aisée, ce sera genre Galerie Lafayette, Biomonde, etc. Pour les très riches, les supermarchés ont pour nom... Pardon, il y a une petite erreur. À ce niveau-là, on ne dit pas supermarché, on dit épicerie. Donc, les épiceries ont pour nom Fauchon et toutes les boutiques détaxées des aéroports. Donc, chacun peut trouver son bonheur. Mais comme les enfants à l'école, on ne peut pas s'empêcher de regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. Si les moins favorisés, autrement dit les pauvres, tirent le diable par la queue, c'est uniquement grâce à leur mérite, c'est-à-dire à leur difficulté à comprendre que travailler n'enrichit pas son âme. Et s'il fut un temps où les politiques sociales aidaient ces personnes à garder la tête hors de l'eau, aujourd'hui, la société n'est pas là pour aider les défavorisés. Comme disait Margaret Thatcher, la société s'arrête à la famille. Ainsi, quand un politicien libéral prône l'apartheid anti-pauvre, cela se résume à « il n'existe que des maîtres et des serviteurs, mais pas de femmes ni d'hommes solidaires et surtout pas d'organisation gouvernementale pour les prendre en charge ». Prendre en charge, quelle vilaine expression aux oreilles d'un libéral ! Personne parmi les gouvernants n'est responsable de ce qui arrive à ceux qui ne comptent pas. Ce sont uniquement par leur désir et leur volonté qu'ils sont pauvres, besogneux ou gagnent petit. Et si la religion catholique a perdu de son influence en France, il existe encore des dames patronesses, qu'elles soient privées et sponsorisées ou issues d'organisations laïques basées sur le bénévolat. Faisons leur confiance, que diable ! Il n'y a aucune singularité positive chez une personne du peuple, ou bien à la marge, tandis que chaque nanti aura à cœur de mettre en avant non pas les singularités, mais les particularités pour promouvoir les qualités qui l'ont fait arriver en haut de la montagne des revenus, en oubliant au passage que c'est avec l'argent alloué par les gouvernants démocrates qu'il a réussi son entreprise. Et il espère vendre 10 à 100 fois sa valeur, les fruits de son ascension, à une firme encore plus grande. Bien entendu, pas question de rendre quelques subventions que ce soit. Gâteau sur la cerise, s'il peut trouver un plan hors de France pour que ses impôts soient le plus bas possible, il fonce. Qui donne à l'État prêt à rire, écrivait Francis Blanche. On a quitté le domaine de l'humour pour celui de la vraie vie d'un libéral nanti. Macron lui-même a récusé à plusieurs reprises le terme de fraude fiscale, alors qu'il était interrogé par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel sur BFM TV. Quand on est en dessous de 1200 euros par mois, quel plan d'avenir peut-on concevoir ? Lorsque c'est tous les jours la fin du mois, parce que les dépenses et les charges augmentent, et à grande vitesse, et que les organismes de crédit, à 5, 8 ou 12 %, rappelons qu'aujourd'hui le taux de crédit moyen est entre 1 et 2 %, quand ces organismes de crédit voleurs vous assaillent pour vous aider à vous en sortir, peut-on imaginer trouver un plan dans un paradis fiscal pour payer moins d'impôts, ou pour avoir un meilleur taux d'usure ? Bien sûr que non. Ce n'est pas la moindre inégalité que cette République fondée sur l'apartheid favorise. Comme pour la grivellerie. Je rappelle, la grivellerie est un acte délictueux qui vise ceux qui logent dans des auberges et n'ont pas une thune pour payer le gîte et le couvert. De par la loi, la grivellerie s'applique à tous. Mais en pratique, pourquoi passerait-on par la case grivellerie afin de ne pas payer hôteliers et restaurateurs quand on roule sur l'or ? Donc, en pratique, cette loi ne s'applique jamais à ces personnes aisées. Or, la loi est la même pour tous, tant pour la grivellerie que pour les taxes et les impôts. Rappelons-nous, le Conseil constitutionnel a retoqué, sous la présidence Hollande, la loi concernant l'impôt sur la fortune, sous prétexte qu'elle discriminait certaines catégories de la population, c'est-à-dire ceux qui devaient s'acquitter de l'impôt sur la fortune, le motif était qu'elle n'était pas égalitaire. Elle ne s'appliquait pas à tous. Et curieusement, ce même Conseil constitutionnel a jugé équitable la loi qui exonère les riches et les nantis d'impôt sur leurs biens. Ainsi, que vous ayez du bien ou pas, c'est pareil. On est tous égaux devant l'impôt, c'est magnifique. Alors, vous êtes convaincu maintenant qu'on est en régime d'apartheid ? Montesquieu avait écrit en son temps « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Où sont les limites ? Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Ces gens, les nantis, les entreprenants, les bleus fluo au teint hâlé, font semblant de vous voir, de vous parler. Mais ils ont aménagé le langage et par un jargon approprié, ils parlent à leurs semblables en affaires. Ils communiquent par-dessus vos oreilles sourdes. Ils transmettent des signaux que, comme le chant des baleines, on ne peut entendre que si on a un savoir et des moyens techniques pour les écouter. Et les médias entrent dans ce jeu simplement parce que pour la plupart, ils sont des jouets de millionnaires. Je sais, cela paraît un peu court comme critique des médias, mais je ferai une humeur à ce propos un autre jour. Évidemment, on ne peut pas avoir un gouvernement sous les ordres de 45 millions de présidents, nombre d'électeurs en France. Mais entre un absurde régime d'apartheid, fût-il incolore, et une démocratie où chaque voix compte, c'est-à-dire est prise en compte, il y a toute une manière de faire de la politique à remettre en pratique. Je termine par cette phrase d'André Malraux. Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. À bientôt pour une prochaine humeur. Une bonne humeur, bien sûr.